RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Bonsoir à tous. L'Isère aurait une nouvelle fois pu être rude pour Jasper Disaster Philipsen, revenu du royaume des sprinteurs morts après avoir échoué à 4 reprises face à ses adversaires. Philipsen a pour le 5e tour consécutif réussi à s'imposer aujourd'hui à Voiron. Résultat, le match est relancé avec Mats Pedersen, le maillot vert. Mais qui sera vraiment le meilleur sprinteur du tour? C'est la question posée à nos consultants Richard Virenque, Jérôme Pinault et Jérôme Coppel, nos experts à qui vous pouvez poser vos questions à partir de 19h45 en nous appelant au 32-16. À l'aube du triptyque alpestre et à 4 jours de l'arrivée à Paris, on se demandera également où les Français vont avoir l'opportunité de briller. Une victoire d'étape avec Lenny Martinez, un maillot à poids avec Valentin Paré-Peintre, un podium avec Paul Sexas ou rien de tout ça, mais seulement le titre de super combatif du Tour avec Baptiste Westhoffer. Mais avant cela, retour sur cette journée de transition pas facile à digérer pour tout le monde.
Bonjour à tous et bienvenue, c'est la route du Tour de France. Nous sommes presque arrivés à Paris, mais avant d'arriver sur les Champs-Élysées dimanche, il y a quand même un paquet de montagnes à gravir. Alors ce sera peut-être pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous aurons que 4 côtes et un petit col à franchir avant l'arrivée à Voiron.
Non, bah, attends, on va quand même lire la pancarte. Parce que Cessieux, 30 ans sur le Tour, sans pédaler, respect. C'est quand même, il y a quand même des gens qui te connaissent très très bien ici.
Et un autre, c'est Pinault, t'as gardé la brioche et pas la boulangère. Bravo les copains. Bravo les copains. C'est des copains qui sont là. Hein. C'est
cool. T'appelles ça des copains, toi?
Oui, ouais, c'est des copains qui se foutent de notre gueule. Mais ils sont très sympas.
Eh bien, on a le maillot jaune, Tadej Pogacar. On a d'autres leaders comme Remco Evenepoel, Juan Ayuso, également Mathias Kielmose ou encore Paul Sexas, mais il n'y a pas Isaac Del Toro.
Effectivement, Isaac Del Toro qui est
tout seul.
Se trouve
tout seul.
Abandonné par ses coéquipiers.
12 km exactement à parcourir pour Jasper Stuyven. Derrière lui à 36 secondes, ça revient. Il y a vraiment une meute qui est lancée avec 44 coureurs, un petit groupe. Je vous en donne quelques noms. Mats Pedersen, Olaf Koy, bien sûr. Jasper Philipsen est présent dans ce groupe avec son coéquipier Edouard Plankaert et avec Emil Verstring pour le lancer éventuellement. Mais pour ça, il faut combler 33 secondes encore. Le groupe maillot jaune est à 6 minutes 40. Yates, Adam Yates en difficulté aujourd'hui à 18 minutes.
Il est en train de sortir tout le monde de la roue, Van Der Poel. Il va rentrer avec Quinn Simons. Attention à Mathieu Van Der Poel, surpuissant dans cette montée.
Ouais, parce que Jasper Philipsen, lui, n'a pas réussi à prendre la roue. Il est un petit peu plus loin. Que va faire Van Der Poel? Va-t-il jouer sa carte personnelle ou travailler pour son sprint?
C'est parti et ils vont passer derrière nous, juste à côté de nous. Mathieu Van Der Poel en lanceur pour Jasper Philipsen qui a l'air très bien. Clément Russo est aussi dans le match, c'est plus compliqué pour Olaf Koy qui est un peu plus loin. Jasper Philipsen semble bien lancer, il est premier, facile. Jasper Philipsen, la victoire sans problème de Jasper qui est vainqueur aujourd'hui, qui n'est pas Disaster. Jasper Philipsen s'impose à Voiron.
Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais.
Eh oui, elle l'attendait, la victoire. Elle l'attendait à la 17e étape. La victoire pour Jasper Philipsen. Tout ému, on l'entendra dans quelques instants. Et je salue toute l'équipe de l'After Tour, nos consultants Richard Virenque, Jérôme Coppel et Jérôme Pinault. Bonsoir messieurs.
Salut à tous.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à tous.
Salut Richard et Christophe Cessieux. Salut Christophe.
Salut les copains, comment ça va? En pleine forme?
Mais ça va très très bien et je sais que tu as des fans sur le bord de la route. On a entendu tes copains qui ont des panneaux sur le bord. Et figure-toi qu'ils sont dans le camion, ils sont avec nous. Et Koun est à côté de nous, on va lui demander de te lancer pour les classements. Donc Koun, tu peux nous...
Donne-nous les classements. Cessieux, chauffe-toi un peu.
Je vais les faire avec le mégaphone, les classements. Tu vas voir, ça va être
les classements, les classements au mégaphone. Je ne sais pas s'il va réussir à s'en servir, mais ça va vous surprendre, chers auditeurs de RMC. On n'avait jamais
vu les classements. Ça marche comme ça.
Voilà. Alors les classements,
comme ça.
Cette étape.
Jasper Philipsen s'impose donc en patron aujourd'hui. C'est son premier succès sur les routes de ce Tour 2026. Son 11e succès depuis qu'il est passé pro. Mauro Schmid, vainqueur il y a quelques jours, termine une deuxième. Olaf Coy, le coéquipier de Paul Sexas de la formation Décathlon CMA CGM, est troisième. Et le premier français, il n'est que sixième, donc toujours pas de victoire d'étape française. C'est Clément Russeau de la formation Groupama FDJ qui est sixième. Mats Pedersen, huitième. Et puis Mathieu Van Der Poel est onzième. Derrière, beaucoup plus loin, sont arrivés évidemment les hommes du classement général, notamment Tadej Pogacar, Paul Sexas et tous les autres qui sont arrivés à plus de 3 minutes, à combien, non, même plus que ça, à 8 minutes 46 oui, oui. De la tête de course. Ils ont relâché la pression. Et puis, beaucoup plus tard, est encore arrivé Adam Yates, accompagné de Tim Wellens et de Johan Essen, qui eux sont à, il faut que je descende très très loin, je ne sais plus où ils en sont.
Ils étaient à près d'une demi-heure.
Ouais, près d'une demi-heure. Donc, ils rentrent dans les délais, mais ça a été chaud et on s'y intéressera tout à l'heure parce qu'Adam Yates a des petits problèmes de santé. Va-t-il transmettre ses microbes à toute l'équipe ? On ne le souhaite pas, évidemment.
Évidemment. Richard Virenque, Philippe Sen, enfin vainqueur. Il faut parfois savoir être patient hein, sur un Tour de France et manger son pain noir. Le coureur d'Alpecin en est la parfaite illustration.
Exactement. Hein. Tant que Paris n'est pas arrivé, vous voyez, tout peut se passer. J'espère que ça va se produire avec les Français. Il faut être optimiste. Et Philippe Sen, je crois qu'il a bien récupéré ces derniers jours avec la journée de repos, le contre-la-montre et un qui était impressionnant aujourd'hui, c'est Mathieu Van Der Poel. Je pense que si Mathieu n'est pas là, je ne pense pas qu'il peut s'imposer de telle façon où ça aurait été peut-être compliqué. Mais ce qui veut dire aussi que cette équipe-là, elle va finir le tour costaud. Parce que quand on marche comme ça à 4-5 jours de l'arrivée des Champs-Élysées, eh ben, tous les jours, ils vont être au combat. Par contre, quand on n'est pas trop bien dans les 4 derniers jours, eh ben, ça s'aggrave de plus en plus.
Oui, et on en reparlera. Il y a évidemment cette bataille pour le maillot vert qui va être passionnante et peut-être que la dynamique est à l'avantage effectivement de Jasper Philipsen et de son équipe. Maria Azé nous a rejoint. Salut Maria.
Salut Pierre, salut tout le monde.
Jasper, revenu, on le disait, vraiment du milieu des morts, du domaine des morts. On ne croyait plus en lui. On s'est dit, il ne va pas y arriver sur ce tour. Et puis finalement, il est capable de s'imposer à nouveau sur un Tour de France. Et d'ailleurs, il égale notamment Mark Cavendish, 5 Tours de France de suite avec des victoires.
Oui, il aurait fallu attendre donc la 17e étape hein, après les victoires de Tim Merlier, celle d'Olaf Coy, celle de Søren Warenschold. On l'a vu hein, jeter son vélo à plusieurs reprises, Jasper Philipsen, frustré de ne pas pouvoir exprimer sa puissance alors qu'il est emmené par le meilleur train du monde et notamment Mathieu Van Der Poel. Mais ça y est, libération pour Jasper Philipsen qui remporte la 11e victoire de sa carrière sur le Tour de France et forcément, il était un peu ému.
Il a fallu attendre la 17e étape, je m'étais préparé vraiment sérieusement, je pense que j'étais dans la meilleure forme de ma vie, pourtant les 12 premiers jours ont été un véritable calvaire, je ne retrouvais pas les sensations que j'espérais avoir. Alors décrocher cette victoire à la 17e étape, c'est avant tout une victoire pour toute l'équipe qui n'a jamais cessé de croire en moi. Je remercie tout le monde, j'étais d'une humeur exécrable à table, j'étais déçu de moi-même, frustré de ne pas réussir à gagner une étape, de ne pas retrouver mes sensations. Toute l'équipe a dû supporter ça, cette victoire est pour eux parce qu'ils ont continué à croire en moi et qu'ils m'ont aidé à me battre jusqu'à cette 17e étape.
Il était même de mauvaise humeur à table.
Oui, bah on l'a vu, bah, les images quand il balance son vélo à l'arrivée, elles sont assez flagrantes. Et donc, bah, cette victoire, t'en parles Pierre-Yves, mais elle relance complètement la course au maillot vert. Philipsen revient à 7 points de Pedersen au classement par points, seulement 4 étapes de la fin du tour, parce que le Danois termine 8e. La bataille finale, elle aura peut-être lieu finalement qu'à Paris, puisque les points du sprint intermédiaire vont être assez difficiles à prendre sur les 3 prochaines étapes.
Jérôme Coppel, on n'y croyait plus. Très franchement, on se demandait, alors que déjà, on n'était pas certain que cette étape à Voiron, ça serait pour un sprinter. La dernière étape sur les champs, on n'a pas de certitude non plus. Voilà, Jasper Philipsen qui ressort de sa boîte aujourd'hui, c'était difficile de parier sur lui.
Bah, c'était difficile de parier sur lui et au vu du scénario de la course, pendant la course, moi je pensais que le classement du maillot vert allait être terminé ce soir parce que Mats Pedersen était dans l'échappée au début mais pas Philipsen. Je me suis dit ok, bah, il va faire le plein de points au sprint intermédiaire, peut-être même à l'arrivée puisque Philipsen n'est pas là et en fait ils ont réussi, et Philipsen et Olaf Coy notamment, on en parlera après, mais à revenir sur ce groupe de tête et ça a complètement distribuer les cartes. Et puis, bah, Mats Pedersen, lui, a laissé beaucoup de jus dans la bataille pour le sprint intermédiaire et ça lui a manqué dans le sprint final. Et voilà, il y avait 50 points aujourd'hui à la victoire d'étape. Bah, 50 points pour Philipsen. Il revient à 7 points. Et comme l'a dit Maria, les 3 prochains jours, je ne crois pas trop à ni Mats Pedersen ni Philipsen pour prendre des points au sprint intermédiaire. Donc, le maillot vert va certainement se décider à Paris, aux Champs-Élysées.
Et peut-être pas sur les Champs-Élysées, mais avant, parce que la victoire d'étape étape, on rappelle, cette étape sera un peu particulière. Depuis l'an dernier, on escalade la butte Montmartre. Bon, est-ce que les sprinteurs seront capables de passer la butte et d'aller ensuite livrer un sprint? C'est pas gagné. En revanche, ça pourrait jouer sur le sprint intermédiaire de cette dernière étape, qui va sans doute être le sprint intermédiaire le plus important de l'histoire du Tour.
Oui, parce que
ce sera à 60 km de l'arrivée avant de gravir la butte.
25 points au premier, 20 points au deuxième. Ça veut dire que, tout simplement, si Jasper Philipsen s'imposait et que Mats Pedersen n'arrivait pas à prendre la deuxième place...
Ah ouais, Van der Poel deuxième, derrière Philipsen,
ouais.
et Pedersen perd son maillot vert.
Et ben voilà, virtuellement, en tout cas jusqu'à l'arrivée, il serait maillot vert.
On peut même avoir une égalité, on ne sait jamais.
Je crois qu'il doit pas. Ça doit être au nombre de places après.
Et après, c'est victoire,
oui,
place.
Au point, en tout cas, égalité. Voilà. Après, il y a toujours moyen de les départager, mais ça pourrait être très, très sérieux.
Mais après, ce maillot vert, il aura forcément une incidence sur le scénario de la dernière étape, que ce soit le sprint intermédiaire ou la manière de. Enfin, la stratégie que va utiliser Alpecin Première Tech, parce que le parcours convient à Van Der Poel. Mais est-ce qu'ils vont tout jouer sur Mathieu Van Der Poel ou est-ce qu'ils vont vouloir garder Philipsen pour essayer de l'amener au sprint final?
Richard Virenque a posé ce nom très rapidement dans la soirée, celui de Mathieu Van Der Poel. Christophe, pour toi, c'est l'élément, le facteur X.
Ouais, c'est le facteur X. Ce garçon, moi, m'épate tout au long de l'année. On rappelle que c'est un garçon qui a gagné quasiment toutes les plus grandes classiques, Milan-San Remo, Paris-Roubaix, le Tour des Flandres. Il est là du début à la fin de la saison. Et sur le Tour de France, une épreuve qu'il n'apprécie pas forcément, parce que lui, ce qu'il aime, c'est jouer sur les courses d'un jour, 21 étapes, à rester concentré, ça le fatigue un peu. Bah, cette année, il nous régale. On rappelle sa victoire d'étape à Ussel à l'issue d'une étape complètement dingue, et puis on rappelle aussi son travail formidable pour Philipsen. C'est un peu les frères pétards, Philipsen et Van Der Poel, depuis toujours. Je pense que les 11 victoires d'étape de Philipsen, il doit en devoir 8 ou 9 à Mathieu Van Der Poel. Alors évidemment, il a une pointe de vitesse super, mais il est lancé comme un champion par Van Der Poel. Alors certes, depuis le début du Tour, c'était un peu plus compliqué parce que Van Der Poel n'arrivait pas à lancer parfaitement Philipsen, mais aujourd'hui, voyant qu'il n'arrivait pas à remporter l'étape, il s'est sacrifié. Et l'un des deux plus grands champions actuels du cyclisme s'est mué une nouvelle fois en Gregario. Et ça, moi, je trouve ça fantastique. Ça prouve que le cyclisme est un sport d'équipe.
Richard Virenque, où tu places Mathieu Van Der Poel dans ton panthéon des coureurs là, des 10, 15, 20 dernières années?
Moi, je le place très bien. Hein. C'est quelqu'un qui fait plaisir à voir. C'est quelqu'un qui a un bon rectus. Il est classe sur un vélo. Il a beaucoup de respect. Je le place, on va dire, dans les 5 coureurs top aujourd'hui, peut-être même moins de 5. Mais c'est quelqu'un qui fait plaisir à voir. Dommage qu'en début de tour, tout début de tour, il n'avait pas trop la grosse jambe, parce qu'il aurait fait beaucoup plus. Après, il a trouvé. Il s'est fait violence pour trouver un peu la condition. Et là, je pense, il va finir le tour canon. Mais moi, je le vois bien faire le quipier jusqu'au dernier sprint. C'est-à-dire qu'une fois que le maillot sera plié, et après, il va faire sa course. Je pense qu'il va essayer. Pour moi, il va essayer de gagner la dernière. Mais il va se mettre en équipier jusqu'au dernier sprint.
Pour le sprint intermédiaire.
Ouais. Et après, ils vont tout jouer pour l'étape, pour essayer, pourquoi pas, de s'imposer. Et ça peut le faire. Hein. Ça peut le faire. Ça va lui donner la montée finale en pavé sur les Champs-Élysées. S'il a la jambe là, qui commence à frétiller comme ça, et que Pogacar, lui, il a donné un peu tous les jours, il a vraiment un atout à jouer le dernier jour.
Jérôme Pinault, on a cru en Coy qui renaissait sur ce tour, alors qu'il avait eu un début de saison évidemment difficile. Après, on a vu Merlier, on s'est dit c'est lui le meilleur. Et puis, il a abandonné. C'est Mats Pedersen qui a récupéré le maillot vert. Et puis là, c'est Philipsen qui va peut-être être le vainqueur à la fin. C'est qui le meilleur sprinter du Tour de France?
Ça dépend des instants, ça dépend des étapes. Je pense que sur cette fin de tour, c'est Philipsen. Sur les derniers sprints intermédiaires, il a été plus fort que les autres. Il est plus régulier. Pedersen, il a mieux attaqué le tour. Si Philipsen avait attaqué le tour avec cette condition-là, il serait maillot vert déjà aujourd'hui. Maintenant, ce qu'on peut constater quand même, c'est qu'entre Philipsen et Merlier, c'est deux équipes qui ont fait le choix uniquement du sprinter. qui sont venus pour gagner des sprints, qui ont mis un dispositif pour gagner des sprints. Dès qu'on veut jouer un peu entre les deux, on gagne moins, c'est moins facile. Aujourd'hui, Pedersen, il aurait pu bénéficier de l'aide de l'ensemble de ses coéquipiers, mais il y a Skelmose, il y a Ayuso. Ils ne peuvent pas rouler pour les sprints et jouer le général. C'est la même chose, et c'est la même chose que l'équipe des 4 lances et MACGM.
Mais sur quoi tu juges le meilleur sprinter? Un sprinter, il doit faire quoi?
Est-ce qu'il doit terminer le tour déjà?
Est-ce que c'est celui qui, non, ou alors, c'est celui qui gagne le plus d'étapes?
Bah, ouais. Voilà, parce que si tu prends la régularité depuis le début de ce tour, c'est Olaf Koy. Hein. Une victoire, 2 fois 3e, 2 fois 2e. Il est toujours là dans tous les sprints.
Ah oui. Donc si tu prends personne ne va le citer.
Bah non, pourtant, il a gagné une étape. Et c'est le plus régulier des sprinteurs. Parce que Merlier, il gagne 3 étapes, mais un sprint ou deux, il n'était pas là.
Et il fait 13,
il fait 16e 14, ouais. Ou je sais pas quoi. Et Philipsen, c'est son premier bon sprint aujourd'hui avec une victoire. Donc c'est ça. Pour moi, un sprinter, il doit gagner. Donc ouais, le meilleur sprinteur du tour, pour moi, il a quitté la route du tour, c'est Tim Merlier. Mais les absents ont toujours tort et Philipsen aujourd'hui, c'est de loin sur le tour sa plus belle victoire aujourd'hui.
Le meilleur sprinteur du peloton du monde n'est pas le maillot vert à Paris. Hein.
Ouais.
Non. C'est comme pour le maillot à pois rouge. C'est pas toujours le meilleur grimpeur qui s'impose, même si depuis quelques temps, Pogacar et Vingegaard. Mais bon, de temps en temps, il laisse échapper ce maillot à pois.
Non, mais c'est un fait. Mais c'est sûr que ce maillot vert, aujourd'hui, avec les parcours et les étapes qui sont proposées, c'est pas les meilleurs sprinteurs sont généralement des garçons qui sont très vite à plat et qui sont emmenés là aujourd'hui.
Donc comment il faudrait faire pour que ce soit le meilleur sprinteur?
Non, mais c'est très bien, le maillot vert, il récompense aussi.
On a revu le garçon. Barème des points. Ouais, c'est bien.
Moi j'aime bien ce nouveau barème là parce que s'il y avait l'ancien barème, je pense que Philipsen serait déjà plus dans la course.
Tout à fait.
Mais alors là, il y a plein de sprints intermédiaires qui vont intervenir dans les 3 étapes qui arrivent, les 3 étapes de montagne, mais ils sont situés après l'école. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux finalement
Est-ce qu'on n'a pas du côté de l'organisateur pensé à un suspense jusqu'au bout et récompenser le meilleur sprinteur sur les champs? C'est peut-être ça qu'ils ont voulu.
D'un autre côté, tu mets la butte Montmartre dans la gueule des sprinteurs, donc t'as pas vraiment envie de les récompenser à Paris.
Ce sont quand même des garçons qui vont, quoi qu'il arrive, même si Pogacar fait un grand numéro sur la butte Montmartre, ils vont arriver ensemble.
Mais regardez,
il y aura un sprint, que ce soit pour la gagne de l'étape ou pas, il y aura un sprint entre ces garçons-là sur l'avenue des Champs-Élysées.
Il restera des points à prendre.
Oui.
Et regardez aujourd'hui.
Tu as raison.
Regardez aujourd'hui. On les attendait pas. Regardez les difficultés qu'ils sont capables de passer.
Mais avant d'être des sprinteurs, c'est excusez-moi du terme, c'est des putains de moelleux. C'est des coureurs qui sont très très forts. Aujourd'hui, ça a été la baston toute la journée. Ces deux coureurs-là sont beaucoup 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 plus que des sprinteurs. Pedersen, il en a mis partout aujourd'hui. Il a mal couru, son équipe n'a pas été bonne.
C'est
mais
quand même,
il a été impressionnant de force.
C'est quand même un point sur lequel on est obligé de revenir. Mats Pedersen, Quinn Simons, on les a énormément vus, mais est-ce qu'ils ne font pas des choses qui ne sont pas assez dictées par leur équipe? Je ne sais pas. De temps en temps, les sent tellement forts.
J'ai une première réponse à ça. Je pense que tu vas être d'accord. Ils sont trop forts.
Il y a trop de moelleux. Il y a trop de moelleux.
Comme ils sont trop forts, ils font de la merde. Et Quinn Simons, le premier. Regardez la réaction à 4 km du final d'aujourd'hui. Derek G se met en tête et Pedersen lui hurle dessus parce que ça va trop vite d'un coup. Et Quinn Simons, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il entend que son leader dit ça va trop vite? Il attaque.
Oui.
Vous voyez bien qu'ils ont un problème de cohésion. Mais ça, c'est parce qu'ils sont trop forts. C'est parce que Quinn Simons, il ne sent pas les pédales. Donc, il en met partout. Et puis, à la fin, ils se font tréfler parce qu'il y a des coureurs qui sont beaucoup plus malin, parce que tu l'as dit, Chris, t'as fait un bel hommage à Van Der Poel. Il faut lui reconnaître aussi sa finesse. Il fait pas d'erreur, Van Der Poel.
La classe.
Et ça, chez Lidl Trek, c'est pas le cas.
Et Lidl Trek, on avait déjà dit la même chose sur il y a quelques étapes en arrière que Ussel. Ils ont perdu la course parce qu'ils étaient trop forts. Et là, à mon avis, ils se trompent d'objectif aujourd'hui. C'est-à-dire là, ils ont tout misé sur le sprint intermédiaire. Pedersen a bourriné tout seul dans le groupe de 6, il faisait le boulot pour 4 alors qu'il avait 5 mecs dans le rondin. Et au final, là où tu as le plus de points, c'est à l'arrivée. Et à l'arrivée, Pedersen, il va faire que 8e alors que Philipsen
gagne. Et c'est lui qui ramène finalement une partie des sprinteurs.
Et c'est lui qui ramène, voilà.
Pour moi, j'ai la bascule de l'étape, elle est juste après ce sprint-là.
Ouais.
Parce qu'ils avaient encore 4 coureurs derrière, ils auraient pu rouler et reposer Pedersen le temps que le groupe derrière y vienne. Ils mettent un mec, lui il arrête de rouler, le groupe revient et il souffle. Et il a continué à rouler devant et ils ont continué à être vigilants derrière. Et à la fin, il en a tellement laissé qu'il s'est fait tréfler.
Le maillot vert, ils l'ont sûrement perdu aujourd'hui parce que Quinn Simons, c'est dans la première échappée avec Van Der Poel et tout. pourquoi Pedersen va relancer. Tous les points vont être pris au sprint intermédiaire. S'ils vont au bout, tous les points vont être pris.
Bien sûr.
Le maillot, il est quasiment assuré à Paris.
Il y a eu
donc là, ils ont été trop gourmands.
Chassé peut-être
gourmand.
L'étape, hein, Pedersen, on rappelle.
Bah alors, s'il chassait l'étape, il a très mal couru.
On en revient même. On en revient à ce qu'on disait au début, ils sont trop forts. Et quand tu es trop fort, tu fais des bêtises.
Tu es d'accord avec ça, Richard? De temps en temps, être trop fort, on se perd un petit peu.
Bah oui, on en fait de trop parce que on sent pas les pédales et on va un coup à droite, on va un coup à gauche, il y a une attaque, on suit, on se relève et quand on court juste, c'est-à-dire à l'économie parce que sinon on saute, et ben là on est beaucoup plus concentré et courir avec la tête. Il est clair que Quint Simons, il est tellement fort et lui. Je ne vois pas comment il ne pourrait pas gagner une étape d'ici la fin de ce tour parce qu'on va rentrer vraiment dans des étapes compliquées. Normalement, il va se balader. Hein. Il devrait vraiment en gagner une d'ici la fin s'il court un peu avec sa tête. Mais il a les jambes pour en gagner une hein, parce qu'il est très fort, il finit très fort le tour. Et on le voit en montagne, il a de la force. Donc oui, il faut courir avec sa tête et être juste parce que le tour, c'est important et il faut marquer d'une victoire, d'un palmarès. Et voilà, donc les étapes passent vite et le tour va vite se finir.
Jérôme Coppel est d'accord avec toi. Il pense que demain, Quint Simons peut être dans les favoris de l'étape.
Ouais, je pense que GG dans les pronostics le prendra parce que ça fait 10 jours qu'il met Quint Simons. Ça fait 10 jours qu'il peut gagner l'étape.
Il va pas en gagner une en courant comme ça. Il va pas
non,
gagner.
Alors voilà, par contre, il s'auto-sabote un petit peu, Quint Simons. Mais demain, c'est une bonne opportunité pour lui. Rappelez-vous l'étape plateau de Solaison. Le Salev, bon, il fait n'importe quoi, mais il est très très fort. Il part tout seul. Et dans Solaison, si Pogacar décide pas de mettre en route derrière, il va peut-être gagner l'étape. Et cette étape-là, pour moi, elle est plus dure que celle de demain, Orsière Merlette. Les pourcentages et les difficultés de demain lui conviennent très très bien à Quint Simons.
On a rendu hommage au vainqueur du jour, Jasper Philipsen, à son lanceur, Mathieu Van Der Poel. Dans quelques instants, on verra si on peut, avant la fin de ce tour, rendre hommage à un Français. Et on verra avec quelle tunique ou quelle victoire d'étape. A tout de suite dans l'After Tour avec nos consultants et avec Christophe Cessieux.
RMC, l'After Tour.
RMC, 19h-20h, l'After Tour,
Pierre-Yves Leroux.
Jasper Philipsen, vainqueur à Voiron aujourd'hui. Ah, encore les Belges, pas de victoire française. Où vont-ils pouvoir briller nos bleus, blancs, rouges? Il reste encore des jours, hein. Demain c'est jeudi, il reste un triptyque dans les Alpes. On sait qu'on a des bons grimpeurs. On a un garçon, évidemment, qui est quatrième aussi du classement, qui aurait pu aujourd'hui d'ailleurs passer troisième. On va en reparler dans quelques instants avec Jérôme Pinault, Jérôme Coppel, Richard Vianque et Christophe Cessieux autour de la table de l'After Tour. Comment aujourd'hui vous imaginez cette fin de tour pour les Français? Richard Vianque, est-ce que tu penses qu'on peut avoir des garçons qui brillent? Je le disais, hein, ça peut être le maillot à pois, ça peut être une victoire d'étape, c'est évidemment Paul Sexas, ou alors il va falloir se contenter du super combatif avec Baptiste Westhoffer.
Oui, je suis optimiste pour ces derniers jours. Il y en a deux qui ont déjà brillé sur ce tour, hein, c'est Paul Sexas, bien sûr, quatrième du classement général avec pas mal de places d'honneur. Il y a Martinez qui est toujours placé au général et on le sent en train de ronger son frein. Bon, voilà, donc les deux, on les a vraiment. Tous les autres Français, il y en a certains qui ont eu du mal en début de tour et qui commencent à se refaire. Donc, je suis assez optimiste pour cette fin de tour où il va y avoir des ouvertures pour des échappées. Et il y a des Français qui ont du peps, comme le champion de France, qui pourrait peut-être se sublimer sur une étape. Qui pourrait l'année passée, on était dans une situation similaire. Et on a un coureur qui nous a vraiment... qui est sorti du lot comme ça, Valentin Paré-Pinte, et qui est allé gagner... le Mont Ventoux. Donc, qui allait dire au départ du tour qu'il allait gagner le Mont Ventoux? Voilà. Donc, pour moi, il y a encore des opportunités. C'est clair que c'est des belles grosses étapes. C'est clair que c'est la fin du tour. Mais c'est pas encore. Les carottes ne sont pas cuites encore.
Bon, tu sais, on a notre rubrique carton, donc on essaye toujours de savoir à qui on va mettre le carton, de quelle couleur il sera. Donc, on va voir ça dans quelques instants.
RMC, l'After Tour,
le carton.
C'est Jérôme Pinault qui a levé le doigt. Il a dit, moi, je veux faire un carton. Je veux faire un carton vert.
Quelques jours déjà.
Un carton, oui, c'est vrai. Un carton vert pour Lenny Martinez.
Mais oui, Oui, carton vert pour Lenny Martinez, que rappelez-vous, l'an dernier, on avait pris la foudre avec son papa, parce que j'avais été un peu dur avec Lenny, qui expliquait qu'il n'avait pas trop regardé le roadbook, ne savait pas trop où il allait. Mais cette année, j'ai envie de lui mettre un carton vert parce qu'il fait un tour extraordinaire. Il passe sous les radars parce qu'il a cette année l'envie de se tester sur un classement général. Alors, il est septième, c'est sûr. Il y a Paul Sexas. Donc, comme il y a Paul Sexas, on ne parle pas de Lenny. Mais un coureur comme Lenny Martinez, à 23 ans, septième du tour, on en reparlerait tous les jours si on n'avait pas un phénomène avec nous. Il est régulier.
Il faut le rappeler.
Il n'a que 23 ans, Lenny. Il a une régularité. Et aujourd'hui, il a pris de la maturité. Déjà, son début de saison est extraordinaire. Ce qu'il a fait à Paris-Nice, ce qu'il a fait sur le Catalogne, il est toujours présent. À Paris-Nice, il a été très, très bon. Il ne s'est jamais fait piéger devant, dans cette fameuse étape de tempête. Aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, un Lenny Martinez, des temps passés, il passait à travers. Il n'était pas vigilant.
Aujourd'hui.
Il tombe, il repart vite. Il fait son petit signe de croix. Il dit, bon, c'est bon, j'ai rien, j'y continue. Ouais. Et il se bat, il se bastonne. Et quand ça se la joue à la cuisse, il est là. Lenny Martinez, c'est la régularité, finalement. Il n'est jamais battu, il n'est jamais piégé. Alors certes, il est à son niveau, un peu derrière, mais il baisse pas non plus les bras. Et moi, je suis encore plus admiratif de ce qu'il fait, parce qu'il est tout seul. Aujourd'hui, on a vu Tiberi attaquer, on a vu Mohoric attaquer. À aucun moment, il est protégé, ni même accompagné dans sa chute. On n'a pas vu un mouvement de panique chez Bahrain. Il est pourtant septième du classement général. Donc moi, j'avais envie ce soir de lui donner un grand coup de chapeau et de me dire que, tiens, pourquoi ce ne serait pas lui notre plus belle carte pour aller gagner une étape, parce qu'en plus d'être bien classé, il est quand même relativement loin. Ça peut lui laisser de plus d'opportunités. Et pour moi, Lenny Martinez a largement dans les jambes une victoire d'étape en montagne.
Justement, on va rappeler le classement général.
Juste pour te dire, avant le classement général, les places de Lenny depuis le début de la saison, dans les courses par étape, il termine 5e de Paris-Nice, il termine 2e du Tour de Catalogne, 3e du Tour de Romandie et un peu plus loin au Tour de Suisse. Et il a aussi une victoire d'étape sur Paris-Nice. Il a été battu par Pogacar sur le Tour de Suisse. Enfin, je veux dire, il fait une saison exceptionnelle, Lenny Martinez.
Mais, ce qui me fait dire qu'il peut gagner une étape de montagne sur le Tour de Suisse. Il était un peu loin en général. Il a tenté des choses, il a osé et il a échoué tout près de la victoire. Donc, on peut encore y croire.
Redonne-nous le temps, justement, et le classement général, puisqu'on ne l'a pas donné tout à l'heure, on a donné le classement d'étape. On va rappeler un peu ce qui va nous intéresser de façon très forte pendant les jours à venir.
Exactement. Alors, le classement général en haut ne bouge pas trop, hein, puisque Pogacar est toujours en jaune avec 4,32 d'avance sur Evenepoel, 6,51 sur Del Toro et 7,11 sur Paul Sexas. Donc, 20 secondes d'écart, on le rappelle, entre Del Toro et Sexas. Ayuso est 5e à 9,22. Lenny Martinez est 7e à 12,50. Il y en a un qui a fait une bonne opération aujourd'hui, même s'il n'a pas repris de place au classement général. Mais Jordan Gegat, qui était devant, est désormais 9e à 14,04. Mais il s'est rapproché à un tout petit peu plus d'une minute de Tom Pidcock. On pourrait donc avoir Martinez et Gegat au 7e et 8e rang, et peut-être un peu mieux s'il y a quelques petits problèmes pour certains dans la montée de l'Alpe d'Huez, dans les montées de l'Alpe d'Huez.
Trois Français dans le top 8, ça serait effectivement un joli résultat. Déjà, quand on se demande où ils peuvent briller, si on a trois Français dans les 8 meilleurs, Jérôme Coppel, c'est pas mal. Et est-ce que tu penses que Lenny Martinez peut, grâce à ce temps qui est quand même proche du quart d'heure, aller chercher une victoire d'étape?
Ouais, alors il faut se rendre compte déjà de ce qu'est une 7e place pour Lenny Martinez sur le classement général du Tour. Souvent on dévalorise un peu ça parce qu'on dit personne ne se rappelle du 7e, du 8e ou du 10e du Tour. C'est des mecs qui se battent tous les jours pendant 3 semaines pour être placés. On ne se rend pas compte de ce que c'est que de faire un classement général et de réussir à faire un top 10 sur le Tour de France. Donc ça, nous pour l'instant on en a 3 dans le top 10. Il y a des années on n'en avait pas un dans le top 20. Alors oui, on avait peut-être des victoires d'étape, mais on n'en avait pas un dans le top 20. Là on en a 3 dans le top 10 déjà, donc ça c'est très bien. Lenny Martinez, le seul problème qu'il va avoir, c'est qu'il est loin. Alors par rapport à Pogacar, il n'y a pas de problème, mais là les deux Lidl Trek qui sont pas si loin que ça devant, Skel Mose a 2 minutes 35 d'avance sur lui et Ayuso 3 minutes 30 d'avance sur lui. Donc j'ai peur que Lidl Trek soit déjà un peu sur la défensive par rapport à Lenny Martinez, parce qu'ils sont comme nous, ils connaissent ses qualités, ils ont vu son début de saison, et lui s'il se glisse dans une échappée, ça fera pas comme aujourd'hui où le peloton va arriver avec 8 minutes de retard. Ils vont certainement aller rouler pour préserver leur place. Maintenant, on a déjà parlé de la stratégie de Lidl Trek, on sait pas vraiment au classement général s'ils misent sur Skel Mose ou sur Ayuso, mais Mais ce qui me fait peur, c'est plutôt la défense des places maintenant d'ici Paris, plutôt que les capacités de Lenny à se mettre dans une échappée et à aller gagner une étape. Ça, il sait faire, il a les jambes pour le faire. Il est très très malin, Lenny Martinez. Il va pas, le jour où il va vouloir être devant, surtout sur les étapes qui restent. Je veux pas dire que c'est facile de se mettre dans une échappée. Sur le tour, c'est jamais facile, mais sur les trois dernières étapes, le départ est tellement costaud que si t'es fort, t'arriveras à être dans l'échappée. Par contre, il faut que les autres équipes te laissent un peu de mou, et notamment la Lidl Trek pour lui.
Quand on pense à Lenny Martinez, il y a un autre profil chez les Français qui lui ressemble beaucoup, c'est Valentin Paré-Peintre. Peut-être un petit coup d'œil aussi sur ce classement du maillot à poids de meilleur grimpeur, puisqu'il est deuxième. Alors, il y a un petit gap, mais on peut imaginer que dès demain, il parte à la chasse aux
points. 24 points de retard pour Valentin Paré-Peintre qui est à 46 points donc, dans ce classement de la montagne. Le leader, c'est Tadej Pogacar, 70 points. Pogacar qui devrait en marquer quelques-uns supplémentaires. Des points avec
côté de l'Alpe d'Huez.
Ouais, l'Alpe d'Huez, 1 et 2, et sait-on jamais. Et puis derrière Paré-Peintre, à 6 points seulement, on trouve Richard Carapaz qui lui aussi a encore, encore de la force dans les pattes. Hein. Le vieil équatorien, il est toujours là. Remco Evenepoel est là. Paul Sexa, 5e au classement de la montagne avec 34 points. Donc pourquoi pas, hein. On a aussi des Français classés.
Richard, il y a un garçon là dont on parle pas et qui est peut-être celui qui nous déçoit, j'ai envie de dire le plus, c'est Kevin Vauclin.
Oui, Kevin Vauclin qui a l'air de mieux en mieux et qui aura de quoi sur les prochains jours de se montrer. Hein. Ceux qui sont bien sur cette fin de tour, comme le tour va être très difficile, ça va être très facile hein, parce que quand vous marchez et que vous êtes dans un tour difficile comme les organisateurs ont fait, je peux vous dire, vous pouvez être tous les jours devant, et ça se passe entre 10 ou 15 coureurs. Et le classement général, il est bien établi, donc il va y avoir vraiment des étapes où on va laisser faire les échappés. Ceux qui sont costauds, ils vont pouvoir se faire plaisir avec les points. Et ceux qui, par contre, ne sont pas bien, ça va se faire naturellement, c'est-à-dire sans attaque, les mecs, ils vont perdre pied, et c'est tellement dur avec l'altitude et les montées à répétition. Donc la sélection va se faire par l'arrière dans cette fin de tour qui va être très difficile pour tout le monde, mais pour ceux qui ne sont pas bien, ça va être l'enfer.
Dans quelques instants, on va évidemment évoquer Paul Sexas pour le classement, pour le podium. Jérôme, Pinot, il y a des garçons ou des équipes qu'on a beaucoup moins vu en revanche du côté français.
Oui, on parle du bilan français, mais quand on regarde certaines équipes, on pense à l'équipe de notre ami Marc Madiot qui est dans le dur sur ce tour. On se bat, on sent qu'on se bat.
Ils avaient du monde dans
l'échappée. Ils avaient du monde devant, mais bon, ils sont avec des champions. La composition de cette équipe, elle est bonne. On a des bons coureurs. Maintenant, c'est dur d'aller devant. Et que dire de l'équipe Cofidis qui est complètement absente des débats? La meilleure place, c'est Frétin, 5e, et 5e dans un sprint, c'est poursuivre. On a mis un dispositif autour de lui. On a quand même amené Aramburu, il est où aujourd'hui? Il n'est pas là. Izaguirre à la trapinette complète. Cette équipe est en train de passer complètement au travers. On a mis un dispositif autour d'un sprinter qui, pour moi, ne va pas beaucoup plus vite que Brian Coquart. Et à côté de ça, on fait rien, quoi. Et ça, ça pèse dans le bilan français. Déjà, dans cette équipe COF, on a deux coureurs français seulement. Et en plus, ils passent au travers. Donc, effectivement, on parle de 32, 33 coureurs, mais il y a aussi une dynamique d'équipe. Là, je pense que, clairement, la dynamique, elle n'est pas bonne et qu'ils ont un peu la tête à l'envers. Ils ont juste envie d'être à Paris et basta. Parce qu'on peut regarder dans cette équipe, à moins que je me trompe et que je découvre un grimpeur capable de gagner à l'Alpe d'Huez, il n'y a plus que demain. Peut-être Izaguirre demain hors Sierre-Merlette, mais Izaguirre, il n'est pas français. Donc un français demain hors Sierre-Merlette, on va reparler des mêmes, toujours les mêmes. Je pense qu'il y a aussi, il faut se rendre compte que certaines équipes françaises sont redescendues de niveau. C'est le cas de l'équipe Cofidis, et Marc le dit souvent, aujourd'hui on a du mal à trouver la bonne carburation et on a du mal à de nouveau exister au niveau World Tour.
Que penses-tu du tour réalisé avec Romain par Total Energy avec Gegat? Ils sont quand même dans le
top 10. C'est plutôt pas mal.
On les voit souvent dans les échappées.
Moi, tu sais quel rapport j'ai avec cette équipe. C'est mon équipe de cœur. Le manager pense de moi ce qu'il veut. Je m'en fiche. Mais j'aime cette équipe. En tout cas, le comportement de ces garçons-là est dans la lignée des équipes de Jean-René Bernaudot depuis des années et des années. Il n'y avait pas besoin de rappeler quelqu'un pour manager cette équipe. Cette équipe, c'est l'âme de Jean-René. Elle fait des résultats. Elle se bat tous les jours devant. Et Jordan Gegat, avec ses petits moyens, avec la pression qu'on lui a mis avant le départ du Tour face à son contrat, et ça, on ne va pas en parler maintenant, il est bon. Il est plutôt bon parce qu'il est dans les 10 premiers du Tour. Alors, 7 loin, peut-être qu'il profite des échappées, mais il faut y être dans les échappées. Donc, moi, je trouve qu'eux, on les voit tous les jours. Ils se battent avec leurs armes. Ils sont dans toutes les échappées.
les projecteurs vont être évidemment sur les 3 jours, voire 4 jours à venir, sur un garçon, encore plus qu'au début du Tour. C'est Paul Sexas, puisqu'il est toujours là. Il est en train de réaliser un grand Tour de France. Léna Marjac nous a rejoint. Bonsoir, Léna.
Bonsoir.
Tu étais à nouveau au cœur de l'événement, de l'ambiance ce soir. Il y avait un parfum particulier, on sent qu'il se passe quelque chose, on le disait, ça va se jouer beaucoup dans les 3 jours à venir et l'ambiance est en train de monter.
Oui, l'ambiance monte et il y a un parfum pour le public, un parfum de podium. Ils ont envie de voir Paul Sexas monter sur le podium à l'issue de ce Tour de France, parce que tout à l'heure, quand Paul Sexas, à l'issue de l'étape, est allé faire sa petite récupération sur son vélo à côté du bus, déjà il y avait beaucoup de monde et ils ont commencé tous à lui crier dessus en disant « Paul, tu vas l'avoir cette 3e place, Paul, tu vas l'avoir même cette 2e place » et il y a un petit monsieur à côté de moi assez âgé qui a dit non mais une 3e place déjà ce serait bien parce qu'il a que 19 ans, il faut le rappeler. Donc on sent voilà ce public eh bien, qui commence à monter, à avoir des espoirs aussi autour de Paul Sexas, le coureur de chez Decathlon, CMA, CGM. Et du coup on a parlé un petit peu aussi avec son directeur sportif Julien Jourdi, parce que bah, effectivement si le podium se joue, sur quoi ça va jouer face à Isaac Del Toro, parce qu'on le rappelle ils sont qu'à 20 secondes d'écart, hein. Isaac Del Toro est 3e, Paul Sexas 4e. Écoutez la réponse de Julien Jourdi, c'est surtout dans la tête.
Voilà, c'est simple, c'est la récupération, hein, c'est clair, la fraîcheur, la récupération. On va rentrer dans un triptyque alpès qui va aller, comme vous le savez, crescendo dans la difficulté. Donc à partir de là, la tête, c'est ce que j'ai dit ce matin, à partir d'aujourd'hui, les jambes, elles sont toutes mortes. Hein. Donc c'est celui qui aura le plus gros mental, la meilleure récupération, hein, qui sera devant à Paris. Voilà, on est prêt maintenant à livrer ces 3 batailles, jusqu'à samedi. On sait que ça va monter en pression petit à petit. Mais il faut négliger aucune des étapes, que ce soit Rossière Merlette, Alpe d'Huez, et bien sûr, cette fameuse étape de samedi qui est assez folle. Il faudra être très fort ce jour-là, individuellement et collectivement.
Voilà, individuellement, collectivement, la tête, 3 facteurs qui seront importants. Il y aura le public, évidemment, parce que ça aussi, ça va être un peu le 9e homme de l'équipe Décathlon CMA-CGM. Et ce sera surtout un atout, je pense, très fort pour Paul Sexas. Quand on voit l'ambiance au bus maintenant, tous les soirs, ça va être très important sur les routes du Tour ce week-end.
Merci beaucoup, Léna. Jérôme, un mot.
Non, j'allais juste dire que La tendance, elle est en train de se mettre bien pour Paul Sexas. Le seul adversaire qu'il a, à part lui-même, c'est Del Toro. On a quand même vu aujourd'hui Del Toro un peu couiné. Et surtout, Del Toro a perdu un atout majeur. Parce que je ne vois pas Adam Yates revenir à très bon niveau. Et ça va peser énormément dans la balance dans cette course au podium.
On va y revenir dans un instant, effectivement, sur ce qui s'est passé dans la journée, qui n'est peut-être pas un point anodin. Et on réécoutera d'ailleurs Julien Jourdi. Richard, dans ton expérience, est-ce que l'âge, par rapport à cette question du mental, peut être un handicap? C'est-à-dire que plus on a d'expérience, plus le mental est fort, ou bien ça dépend tout simplement de la personnalité?
Ça dépend de la personnalité, mais en fait, moi, si je me projette dans mon premier tour, je croquais tout à plein cœur, quoi. Et on va jusqu'au bout, au bout. Donc on ne sait pas, même pour exploser, mais en plus, il y a le public, c'est magique, le tour, donc tous les feux sont verts. Il n'a pas fait de faute sur ce Tour de France. Donc, le week-end qui va se passer, ça va bien se passer pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il est de là, il connaît, il a la jeunesse, la fraîcheur mentale. Il va vouloir aller très loin dans la douleur. Del Toro, lui, il n'est pas français. Il va gamberger parce qu'il a la pression. En plus, Del Toro, il a fait plusieurs fois le Tour de France. Donc, Paul Sexas n'a rien à perdre. Il n'a qu'à suivre le mouvement. Donc, pour moi, tous les voyants sont vraiment ouverts pour lui. Il a que à le suivre. Et même à un moment donné, ça va se faire tout seul. Ça va tellement être dur, il n'a même pas besoin d'attaquer. Il va se retourner et il va entendre à la radio Del Toro en difficulté. Et bien là, il va retrouver encore plus d'énergie parce qu'il va dire « Waouh, je suis en train de monter sur le podium sans avoir attaqué ». Et là, il va se sublimer encore plus. Et attention, on a vu depuis les 5 derniers jours 2 abandons de top 5 dans ce Tour de France qui sont partis au tapis. 2. On ne dit jamais 203. Donc, je ne dis pas qu'il va y en avoir un 3e. Mais attention, ça va être tellement dur. Ils annoncent aussi des orages en France pour ce week-end. Vous avez vu le programme. Donc, il va falloir être très vigilant. Il va falloir avoir la chance avec soi. Mais en tout cas, pour parler de Paul Sexas, je pense que c'est tout bon pour lui. Hein.
Bon, eh bien, écoute, on croise les doigts, évidemment, on l'espère. Jérôme ?
Petit rectificatif, c'est le premier tour de Isaac Del Toro.
Premier tour.
Il est très jeune.
Ah Oui, mais il a fait d'autres tours.
Une Vuelta et un Giro.
Il a fait déjà une Vuelta, un Vuelta,
un grand tour.
Il a quelque chose, Richard, aussi. Alors, c'est soit positif, soit négatif, ça dépend comment t'es dans ta tronche. C'est qu'il a échoué sur le dernier week-end, l'an dernier, sur le Giro.
Et comment ?
Il a perdu le Giro sur la dernière étape de montagne. Et ça, je pense que ça peut quand même
te
trotter dans la tête, sachant qu'à l'époque, il avait un atout majeur, c'était Yates, qu'il ne l'a pas.
Exactement. Il s'est passé quelque chose d'important aujourd'hui. Deux choses chez UAE. Effectivement, Yates malade, on verra demain comment il a récupéré, il était déjà pas très bien hier. Et puis le deuxième élément, c'est donc Del Toro, mal placé apparemment, et qui perd à un moment 40 secondes sur Paul Sexas. On va écouter Julien Jourdi, parce qu'à ce moment-là, il y avait possibilité, pourquoi pas, pour la Décathlon CM1-CGM de creuser. Au moment où Del Toro est lâché, Paul Sexas est sur le podium, a le maillot blanc. La réponse de Julien Jourdi.
On a essayé de rouler. Je pense que toutes les équipes étaient un peu dans un calcul de savoir où étaient les équipiers, qu'est-ce qui se passait vraiment. Voilà, nous, on a commencé à rouler avec Tiche Benoît notamment. Voilà, parce qu'on avait cette information. C'est clair que c'était une opportunité pour essayer de distancer Del Toro. Voilà, on n'a pas eu d'aide à partir de ce moment. Voilà, on a arrêté de rouler, on était à plus de 100 km de l'arrivée. On avait simplement deux équipiers autour de Paul, donc on a voulu également jouer la prudence. Mais voilà, c'est clair, c'était quelque chose qui aurait pu être intéressant.
Il y avait une opportunité, c'était à 100 km de l'arrivée, il fallait mettre trop d'énergie. Jérôme Coppel, c'était une opportunité, mais ça reste quand même un signal, une indication positive et une dynamique plutôt à l'avantage de Paul Sexas, comme disait Jérôme Pinault tout de suite.
Bah, bien sûr, quand même si c'est sur un moment de l'étape, quand tu sais que tu as distancé ton adversaire principal, bah, toi, ça te remet un boost d'énergie. Comme le dit bien Julien Jourdi, ça allait être compliqué. Il n'y avait que deux coureurs autour de Paul Sexas. Ils n'allaient pas pouvoir distancer tout le groupe de derrière à plus de 100 km de l'arrivée. Maintenant, la version officielle du AE, c'est Del Toro était mal placé. La version officieuse, on la connaît pas vraiment. Bien sûr que Giannetti va pas nous dire non, il est pas top. Del Toro avec le triptyque qui nous attend. Mais par contre, mal placé, malade, pas malade, on s'en fiche. Le résultat, c'est qu'au moment où il y a eu la castagne, où il y a eu les cassures dans la descente, bah, il était à 40 secondes. Point. Donc ça, Paul Sexas, dans sa tête, il le sait, il l'a entendu. Et là, c'est vraiment un plus pour lui. Maintenant, on va voir, est-ce que ça a un lien avec Adam Yates qui était un peu malade ? Est-ce que c'est juste une mauvaise journée pour Del Toro ? C'est possible, demain. Parce que, rappel, donc chute dimanche pour Del Toro vers le plateau de Solaison, journée de repos lundi. Le chrono, il a très bien fait, mais c'est une journée qui est un peu particulière. On a dit, tu roules en trois fois, etc. Des fois, le lendemain, t'es pas bien. On aura une vraie réponse déjà demain pour Del Toro. Demain, il va pas prendre, même s'il est pas bien, il prendra pas un carton. Par contre, vendredi, samedi, c'est autre chose.
L'explication de son équipe, elle est logique. On éteint le feu tout de suite, on a expliqué pourquoi Adam Yates était malade et on a dit Del Toro, mauvais placement. On a tous fait du vélo, en tout cas nous on a fait du vélo à très haut niveau. Sur le tour, avec la forme qu'il a et qu'il a annoncé et qu'on a vu qu'il avait hier, tu t'écartes la route, tu baisses dedans, tu fais un effort et tu te recales dans la roue. C'est pas compliqué pour lui, il a le maillot jaune dans son équipe. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas se replacer. Parce qu'il n'a pas pété 40 secondes dans la descente. Il a pris d'abord 20 secondes dans la montée. Et il s'est retrouvé avec Pedersen. Donc, c'est à prendre en considération qu'éventuellement, peut-être pas sur toute l'étape, mais sur un début d'étape difficile, bah, il peut être mis en difficulté.
Et moi, je n'oublie pas que l'année dernière, il paraît, Tadej Pogacar avait très mal au genou. Mais on ne l'a pas su sur la dernière semaine. Donc, on ne dit pas tout, évidemment, Christophe.
Ouais, moi, je me demande si la formation Décathlon CMA-CGM n'a pas raté une occasion aujourd'hui.
Je ne sais pas, Chris.
Il pouvait pas, c'était trop loin de l'arrivée.
Ils n'étaient pas relayés.
On
peut pas sacrifier Nico Prodhomme. Nico, il aurait pas pu faire 100 bornes sur le plat, rouler comme plein badin. Derrière, ils auraient fait relever des coureurs et il y aurait eu match et on aurait gagné que très peu, mais perdu énormément en énergie. Où il aurait pu avoir match gagné, Paul, c'est s'il y avait eu par concours de circonstances, des pions à rouler et ou d'autres équipes qui veulent absolument piéger les gens derrière. Ce n'était pas le cas. Moi, je pense qu'ils ont pris là la bonne décision.
Tu peux faire une borne, mais pas 100. Tu peux faire deux bornes, mais pas 100. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'After Tour avec Richard Virenque, Jérôme Pinault, Jérôme Coppel. Les questions des auditeurs. À tout de suite.
RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
La dernière ligne droite de l'After Tour avant le triptyque alpestre. Les auditeurs au 32-16 qui posent leurs questions à nos consultants Jérôme Pinault, Jérôme Coppel et Richard Virenque. Et on accueille tout de suite Geoffrey de Tarbes. Bonsoir Geoffrey.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Geoffrey.
Merci beaucoup. Bon, le tour est passé près de chez toi hein, et maintenant direction les Alpes. Comment tu as vécu cette étape du jour? Est-ce que tu as une question à poser à nos consultants?
Oui, alors moi je l'ai vécu, alors déjà je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'écart entre le peloton maillot jaune et le vainqueur du jour. Et j'ai vu que Philipsen recolle un peu au classement du maillot vert. Et la question que j'ai, c'est est-ce que Mats Pedersen, avec les trois étapes qui arrive avant celle de dimanche, est-ce que il a une chance de partir dans une échappée et passer les cols pour essayer de s'éloigner un peu au maillot vert, ou alors est-ce que qu'il va devoir rester avec le groupe Eto et essayer pourquoi pas de feinter les favoris de dimanche sur l'arrivée à Paris?
Là, ça demande une analyse fine du profil des étapes à venir.
Ouais, alors ça me paraît compliqué, Geoffrey, mais en regardant un peu plus dans le détail, pas complètement impossible non plus pour Mats Pedersen. Alors demain, j'y crois pas trop, parce que le sprint est loin, je pense que l'échappée sera faite et le premier col est quand même assez dur. Par contre, vendredi, alors il y a un départ très très costaud. Vendredi, quand on part de Gap, là, le col Bayard, on connaît, c'est quand même costaud. Et après, il y a le col du Noyer, mais entre le sommet du col du Noyer et le sprint intermédiaire, il y a plus de 60 km. Là, s'ils s'organisent bien, Lidl Trek, et qu'ils arrivent à passer le col du Noyer pas trop loin, ça dépendra toujours du scénario de la course, mais c'est peut-être la seule étape où potentiellement ils pourraient prendre des points au sprint intermédiaire. C'est quand même très hypothétique, ça dépendra du début de course à chaque fois, mais c'est pas complètement impossible.
Attention quand même à ne pas négliger l'état de forme de Jasper Philipsen, parce que rouler pour Pedersen, c'est une chose, mais il faut rouler pour Pedersen pour les sprints intermédiaires, à condition que Philipsen ne soit pas là, parce que là, pour le coup, là, on le sait, Philipsen est beaucoup plus rapide au sprint que Pedersen. Donc, il faut à la fois lâcher Philipsen, passer les bosses et rouler pour aller faire le sprint. Donc, c'est très hypothétique.
Richard, ouais, tu mises sur Mats Pedersen ou sur Philipsen pour le maillot vert?
Philipsen, je pense qu'il aura, il va, son atout de forme, il est ascendant et il va finir fort le tour.
Ouais, parce moi, c'est si... le profil, quand on voit le profil des étapes, ça paraît un peu plus favorable à Pedersen que Philipsen, parce que Philipsen, je l'ai jamais trop vu sur une étape de montagne partir en échappée pour essayer d'avoir des points. Il est quand même assez compliqué pour lui là.
Oui, t'as raison, mais Pedersen, même s'il grimpe beaucoup mieux que Philipsen, c'est quand même très costaud, les départs d'étape de demain, de vendredi, samedi, j'en parle même pas. S'il y a vraiment la course pour prendre l'échappée, etc., même Mats Pedersen ne passera pas. Moi, si j'étais le DS d'Alpecin Première Tech, de toute façon, je pense qu'il y a quelques jours, ils se disaient le maillot vert, c'est mort, on ne l'aura pas. Là, ils sont revenus dans le jeu, je ferais tapis sur dimanche si j'étais à leur place. Bien sûr, je dirais à Philipsen de suivre Pedersen s'il y a du mouvement et je miserais tout sur ce sprint intermédiaire de dimanche en essayant de garder Mathieu Van Der Poel pour prendre la deuxième place. D'essayer de piéger Pedersen sur le sprint intermédiaire de dimanche. De toute façon, ils avaient quasiment perdu le maillot vert jusqu'à aujourd'hui. Donc, je miserais là-dessus. L'arrivée
de dimanche, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais l'arrivée de dimanche, elle va être aussi prépondérante dans le classement du maillot vert. Certes, peut-être qu'un coureur comme Tadej Pogacar voudra gagner de nouveau, parce que l'année dernière, il a essayé de gagner cette étape dans des conditions un peu particulières. Attention, cette année, s'il ne pleut pas, ce n'est pas la même chose, hein, la butte Montmartre. Mais même si Pogacar arrivait en solitaire sur les champs, derrière, il y a un sprint pour la place de deux. Et c'est celle-là qui va déterminer les points.
Exactement.
Et le maillot vert.
Merci beaucoup, Geoffrey, de nous avoir appelé. Et Franck est également là au 32-16. Franck du Calvados. Bonsoir, Franck.
Bonsoir à tous.
Salut, Franck.
Salut, Jérôme. Je suis content, il y a Jérôme Pinault, parce que je cherche le football club de Nantes cette année en Ligue 1. Je ne l'ai pas trouvé.
Que Jacques très bon début.
Et par contre, le Stade Malherbe, on peut en parler ou...
Ouais, on peut en parler, il n'y a pas de problème. On peut en parler. Je ne suis pas supporter du Stade Malherbe. Donc, je suis une supporter du Stade Malherbe.
Ouais. À Duhac, d'accord. Bah. T'habites à quand, tu es supporter du Havre? Bah oui, quand tu es avec le bon Ligue 1, c'est plus facile.
T'es à Oulgat. Oulgat.
Ah, pardon, Oulgat. Je connais, je suis de la région.
On sera dans ton coin très certainement l'année prochaine avec le Tour de France d'ailleurs. Est-ce que tu as une question précise pour nos consultants?
Ouais, je suis très inquiet parce que j'ai quand même vu à Daniel qui était blanc, on va pas dire comment il était blanc.
Et ah oui, comme un cachet,
comme un linge.
Oui, exactement. Et j'espère et je leur souhaite, j'espère pas qu'ils sont pas en train de lui faire une PDM il y a quelques années là. Parce que j'espère qu'il n'y a pas un virus qui traîne, parce que j'ai vu...
Un PDM, même... c'était pas un virus, hein, Franck.
Ouais.
PDM,
ah oui, c'était pas un virus. Hein. Enfin,
un problème de frigo.
Ils ont été un peu touchés. Et puis j'ai vu Del Toro. Del Toro, il peut avoir... Il était pas bien. Pas bien, mais pas bien, c'est pas bien. Donc j'espère qu'il ne traîne pas quelque chose chez eux. Et ça me fait un peu peur pour la suite du tour.
Petite information, il me semble bien qu'Isaac Del Toro est dans la même chambre qu'Adam Yates.
Ah oui, non mais alors, on en a parlé, Franck, tout à l'heure pendant le direct. Alors, on va pas reparler des années noires du cyclisme et de PDM, parce que ça nous envoie à autre chose. Mais c'est pas impossible, par contre, qu'il y ait un petit virus, effectivement, dans l'équipe. Si c'est l'inquiétude de Machin, hein, le directeur sportif de cette équipe, qui disait tout à l'heure au micro, j'espère que c'est pas une gastro-entérite. Parce qu'effectivement, si c'en est une, alors ça, c'est une saleté de maladie qui est très, très contagieuse. Et là, panique à bord dans l'équipe. Après, il peut avoir eu un refroidissement ou choper quelque chose à l'estomac. Mais avec un coureur malade, quelques coureurs qui, quand même, ont fait de l'huile depuis quelques temps là, dans cette équipe, et un coureur comme Del Toro qui n'était pas très bien au départ aujourd'hui, on peut avoir des motifs d'inquiétude. Mais on sait faire dans cette équipe. Et a priori, il n'y a pas trop d'inquiétude pour Del Toro. En revanche, pour Adam Yates, je serais très surpris de le revoir. Mais c'est une grosse perte, Franck. Exactement.
Et il y a une image, en revanche, Jérôme Coppel. À l'arrivée, on voit Tadej Pogacar taper dans la main d'Isaac Del Toro. Ça, c'est, en général, si on a des inquiétudes, ce sont des gestes qu'on oublie.
Oui, normalement, surtout si, comme tu le dis, ils faisaient chambre, parce qu'ils ont dû isoler Adam Yates depuis peut-être la journée de repos, ou en tout cas le chrono d'hier, si vraiment il y a un truc qui était contagieux, tu ne vas pas taper dans la main encore moins de ton leader, de personne, et encore moins de ton leader. Donc, on verra, mais c'est vrai que le virus, si tu parles, GG, tu disais gastro-entérite, moi j'ai connu ça à mon premier tour, hein, un coureur qui est arrivé un peu malade avant le tour, bah, ça nous a décimé l'équipe. On est trois à l'avoir attrapé. Et puis la gastro, c'est autant le rhume, éventuellement, tu peux t'en sortir, mais la gastro, c'est mort. Si tu vomis, si tu n'arrives pas à manger, pas bien à t'hydrater, ton espérance de vie sur le tour, elle est de 2 jours ou 3 jours maximum. Et surtout, Adam Yates, c'est pas qu'il s'en fiche de terminer le tour, mais lui, son rôle, c'est d'aider en montagne Pogacar et Del Toro. S'il voit qu'il n'y arrive pas, dès demain, il risque de rentrer à la maison.
Et Richard, juste pour terminer et pour conclure, est-ce que tu penses que ça peut être une bonne idée de tester assez rapidement cette équipe UAE de la part des adversaires pour voir si tout le monde est en forme, peut-être dès demain ?
Ouais, je pense que le tour va se lancer, les étapes vont se lancer, et ça va se faire tout seul. Il n'y a pas de stress à avoir, c'est tellement dur. Le peloton va rouler à vive allure. Il y a tellement aussi d'équipes ou de coureurs qui n'ont pas gagné, qui ont beaucoup à montrer sur ce tour. Il y a aussi le maillot à poids qui va se décider parce que les organisateurs ont tout fait pour que le maillot à poids se décide dans ces 3 derniers jours. Donc, il y en a plein qui vont partir à l'offensive et forcément, ça va rouler vite. Il faudra avoir les jambes et la sélection, elle va se faire par où ? Par l'arrière. Ça va sauter par l'arrière sans les attaques et là, on va avoir deux fois plus clair et on n'a pas de stress à avoir. Ceux qui sont bien sont devant, ceux qui sont malades, et ben, ils vont avoir la misère.
Et puis l'indication principale, on le répète, on le dit, ça va être l'attitude de Tadej Pogacar. C'est lui le régulateur de vitesse dans l'équipe UAE. Si jamais Tadej Pogacar ne roulait pas si vite que cela dans la dernière montée, déjà dès demain, ça voudra dire que Del Toro n'est pas bien et là, il faudra passer à l'attaque.
Merci beaucoup Franck, merci messieurs Richard Virenque, Jérôme Pinault, Jérôme Coppel. On se retrouve demain, on a hâte de voir ces belles étapes à venir. Et on suivra ça dans l'intégral tour évidemment. À demain, ciao.
RMC L'After Tour.